cours de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 29 février 96.
Pour le philosophe, qu'y a-t-il d'intelligible dans cette affirmation de Jésus ? À faire pour le philosophe. La béatitude des pauvres est d'abord une béatitude spirituelle. Bienheureux les pauvres en esprit, Saint-Luc précise. C'est l'intellectuel Saint-Luc. Il faut toujours regarder Saint-Luc quand on fait une philosophie, une éthique chrétienne. C'est la première distinction. Et alors là, on commence beaucoup mieux à comprendre que ce n'est pas contraire à la personne humaine d'être pauvre en esprit, c'est-à-dire ne pas s'arrêter au bien temporel, au bien humain, même l'honneur, qui est le premier bien temporel, le bien le plus grand. S'arrêter à l'honneur et à la gloire, je veux dire à la gloire humaine, c'est nécessairement un frein terrible pour la recherche de la vérité. On freine. Et là, il y a quelque chose de terrible. Esprit de possession. Chercher la gloire humaine. Ordinairement, on aime l'argent pour la gloire, pour être glorifié. Alors, on comprend cela, que ne pas s'arrêter au bien temporel, c'est-à-dire être pauvre en esprit, ne pas l'écarter, ne pas avoir un esprit de propriétaire, un esprit qui cherche à faire que l'argent fasse des petits. C'est tout simplement libérer notre intelligence humaine de soucis temporels qui risquent de nous accaparer. Alors on peut très bien comprendre ça comme un conseil. On dira, oui, pour le sage, si on a atteint une certaine sagesse, on comprend. Où c'est difficile, c'est que la béatitude des pauvres n'est pas du tout donnée pour une élite intellectuelle. Jésus ne dit pas ça au Sanhédrin. Pour vous, docteur de la loi, vous devez vivre de la pauvreté. Jésus proclame les béatitudes pour le bon peuple de Dieu. C'est là le mystère pour le philosophe. C'est là où, de fait, il y a quelque chose qu'il ne comprend pas. Il voit que ça dépasse complètement l'humain. Et que ce n'est pas contre, puisqu'au fond, ceci serait parfaitement vrai pour un sage. Alors est-ce que le christianisme, oui, je me pose des questions, est-ce que le christianisme regarde tous les hommes comme des sages? Est-ce que le christianisme veut que tous les hommes soient des sages? Parce que la béatitude des pauvres est vivable, est concevable, est intelligible pour celui qui a une sagesse, qui a atteint une fin spirituelle, qui l'a contenté. Pour le contemplatif, c'est normal d'être pauvre en esprit. Et pour celui qui n'est pas contemplatif, qui a des œuvres de miséricorde, qui doit édifier une cité mariale en Guinée, voulez-vous qu'ils vivent de la béatitude des pauvres? Qu'ils disent à tous ceux qui viennent travailler avec lui, attendez tout de Dieu, mais n'attendez rien de moi. Je vous embauche divinement. soyez des amis de Dieu. Mais moi, je suis comme vous, je n'ai rien. Alors travaillez pour glorifier Dieu. Mais travaillez gratuitement. Voyez, là, le philosophe pose la question. C'est possible que Jésus, venant au milieu de nous, mûrit l'humanité d'une manière telle qu'elle doit vivre sa vie chrétienne à un niveau de sagesse. Mais c'est bon que le philosophe pose quelques questions en regardant ce qu'est l'éthique chrétienne. L'éthique chrétienne me montre que les exigences de la pauvreté, de la béatitude des pauvres, réclament de l'homme d'être un contemplatif, réclament de lui la sagesse. Alors, où Jésus est un fou, un illuminé, il ne voit pas ce que c'est que la misère des hommes et le peu de capacité qu'a l'homme pour contempler. Où Jésus est justement un saint, fils de Dieu, capable, par la grâce, de mûrir les hommes d'une manière telle qu'ils sont appelés à la contemplation. La béatitude des pauvres, comme première béatitude de la vie chrétienne, comme l'entrée dans la vie chrétienne, oblige le philosophe de se poser ces questions. Et c'est important. Autrement, c'est de la folie. Autrement, c'est un scandale. Oh, la béatitude des pauvres, vécue parfaitement, c'est le mystère de la croix du Christ. Les pauvres, vous en aurez toujours, mais moi, Jésus montre très bien que la pauvreté qu'il réclame n'est pas la pauvreté des pauvres qu'on voit, de ceux qui sont à la piscine de Bethsaida. C'est pas ça du tout, c'est lui. Je ne comprends rien à la béatitude des pauvres si je ne regarde pas Jésus. Alors, là, il y a quelque chose de très important. Le philosophe comprend que la vie chrétienne ne se comprend qu'à la lumière d'une personne. Et dans la lumière d'une personne, si je coupe les béatitudes du mystère de la croix de Jésus crucifié, je ne peux pas entrer dedans. Il y a quelque chose de très beau, et je ne comprends pas. Tandis que si je regarde la béatitude des pauvres liée au mystère de Jésus, et que je sais, et on le verra ensuite, que le Christ est donné à tous les chrétiens. Les chrétiens ont un sacrement qu'on appelle le sacrement de l'Eucharistie, qui est le pain des chrétiens, et qui est le don du corps du Christ. Et donc, les chrétiens, par ce don du corps du Christ, ont une richesse qui n'est plus de ce monde, qui n'est pas de ce monde, mais une richesse infinie qui permet pour mettre en la lumière cette richesse. Pour en vivre, il faut la béatitude des pauvres. Comme la négation, mais en pleine lumière, l'affirmation. Ceci n'est pas, mais en pleine lumière, ceci est. De même, la béatitude des pauvres qui fait que les privations portées dans l'amour chrétien, c'est-à-dire portées à travers et dans le cœur de Jésus, ces privations manifestent le prix du corps de Christ, du cœur de Jésus. Des pauvres, vous en aurez toujours mémoire. Il faut donc dépasser la pauvreté visible, celle que je vois, la pauvreté humaine, pour découvrir la vraie pauvreté, celle qui est dans le cœur de Jésus et celle qui est manifestée à la croix. Et celle qui fait partie de la béatitude de la croix. Vous voyez comment cette interrogation, qu'est-ce que le philosophe peut dire en face de la béatitude des pauvres, comme philosophe, comme elle nous met tout de suite en face du mystère chrétien dans son plus grand absolu. Les béatitudes ne sont pas quelque chose d'abstrait. Ce n'est pas un enseignement d'une doctrine qui se tient par elle-même. Les béatitudes ne sont intelligibles pour le philosophe que dans la lumière même de Jésus. Si Jésus n'était pas Dieu, la béatitude des pauvres, proclamée comme elle était proclamée, relèverait de quelqu'un qui est illuminé et qui ne sait pas ce qu'il veut dire. Si au contraire, Jésus est Dieu et qu'il se donne lui-même en nourriture à chacun de ses disciples, s'il le veut, alors la béatitude des pauvres devient, j'allais presque dire, comme une nécessité. Pour recevoir cette richesse infinie du corps du Christ, du cœur de Jésus, on comprend qu'il faut avoir un cœur pauvre et qu'il faut vivre en pauvre, ne s'arrêter à rien qui risque d'être un obstacle. Même les pauvres peuvent devenir un obstacle au mystère de la béatitude des pauvres. Et c'est vrai cela. On connaît des gens qui sont complètement dévoués aux pauvres et qui sont scandalisés devant le mystère chrétien. Parce qu'ils regardent uniquement la pauvreté matérielle. Et sans amour, la pauvreté matérielle est une privation. Si on regarde la pauvreté matérielle dans la lumière d'un don personnel d'amour et d'une amitié divine, alors à ce moment-là, la béatitude des pauvres devient quasi nécessaire pour être tout entier à l'unique pauvre qui se donne lui-même et pour pouvoir recevoir ce don tel qu'il est, avec toute sa force et toute sa dignité, il faut la pauvreté. Tout manque de pauvreté devient quelque chose qui arrête la capacité de l'homme de recevoir le vrai pauvre, l'unique pauvre, et de le recevoir comme pain et comme vin, de le recevoir comme agneau de Dieu, de le recevoir dans son immolation de la croix. À ce moment-là, le philosophe doit reconnaître que la vie chrétienne proclame sans le cacher que provenant d'un homme Dieu, elle a une exigence qui n'a encore jamais été demandée aux hommes dans aucune autre religion. Nous trouvons le même échange. L'homme devient pauvre pour être Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui réclame à l'homme de passer d'un état de satisfaction humaine à un état de pauvreté. Parce qu'il est agrandi, il est transformé en un Dieu, en un Fils de Dieu. Voyez comment la béatitude des pauvres, si je la regarde au plan philosophique, exige de découvrir sa source. La source de toutes les béatitudes, c'est Jésus crucifié. Et toutes les béatitudes, et spécialement celle de la pauvreté, ne peut être vue que de cette manière. Autrement, ça devient absurde. Autrement, je suis en face d'une exigence qui n'est plus humaine. Et je serai obligé de dire que la vie chrétienne, non seulement est surhumaine, mais elle est contraire à l'humain. C'est ce qu'on entend constamment. Combien de fois avez-vous entendu ça? La vie religieuse, ce n'est plus humain. C'est contraire à l'humain. Oh, surtout n'entre pas. Parce que tu ne pourras plus être toi-même. Comme dans une secte. Mais, et dans le climat dans lequel nous vivons aujourd'hui, où la lumière vient surtout de la science, où l'efficacité est poussée tellement jusqu'au bout, il est très difficile pour nos mentalités d'aujourd'hui de comprendre cette béatitude des pauvres. C'est celle qui heurte le plus. Et c'est normal, parce que on est tellement saisi par l'aspect sociologique. Or, au point de vue sociologique, la pauvreté, le chômage, parce que le chômage entraîne la pauvreté et la pauvreté entraîne le chômage, c'est quelque chose d'anti-humain. Et on doit tout faire pour le supprimer. Et pour beaucoup, ce serait la première exigence. Ne prêchez pas le mystère du royaume de Dieu à des pauvres qui manquent de pain, à pas le royaume de Dieu. Cherchez d'abord avec eux une justice sociale pour supprimer le chômage, pour rétablir une certaine égalité. C'est courant d'entendre ça aujourd'hui. Et vous voyez, c'est une méconnaissance complète de l'éthique chrétienne. C'est une méconnaissance complète de l'éthique chrétienne. Et au fond, derrière tout ça, c'est une méconnaissance du cœur de l'homme. Parce que si on allait jusqu'au bout du cœur de l'homme, on verrait justement que l'homme ne se nourrit pas seulement de pain. Que l'homme a besoin de la vérité. Et la pauvreté, la béatitude des pauvres, a ce privilège de manifester dans toute sa force le primat de l'amour. C'est la grande épiphanie de l'amour, la croix. C'est la grande manifestation de l'amour. Et l'amour réclame la pauvreté. Platon avait saisi, j'allais dire, d'une manière prophétique, et c'est très curieux que ce soit Platon, que l'amour naît de la pauvreté et de la surabondance. Dans le banquet, il dit ça. Il y a quelque chose de juste. C'est qu'au fond, dans un monde tel qu'on le voit aujourd'hui, au moins le monde de la surabondance, dans un monde de surabondance de biens, l'amour risque de disparaître. Dans un monde où les êtres humains sont pauvres, l'amour, au contraire, a toute sa place. C'est ce que on reconnaît souvent, que des pauvres chrétiens et qui vivent chrétiennement leur pauvreté restent joyeux, et que des chrétiens qui vivent dans un monde d'une économie de consommation sont tristes. Mais alors là, je retrouve un lien très intime et très profond entre l'amour spirituel et l'exigence de pauvreté. Non seulement de l'esprit de pauvreté, mais aussi d'une certaine pauvreté matérielle. Et je crois qu'il faut aller jusque-là pour que le christianisme, pour que le philosophe comprenne autant qu'il le peut, comment entrer dans cette vie chrétienne, qu'est-ce qu'elle représente en premier lieu de la manière la plus tangible et la manière la plus immédiate. Les disciples du Christ crucifié, que sont les chrétiens, doivent, à la suite du maître, vivre du mystère de la sagesse de la croix. Or, la première dimension de la sagesse de la croix, c'est que l'amour réclame la pauvreté. Un amour qui veut être substantiel. Un amour qui veut être tout. Un amour qui veut tout prendre, réclame la pauvreté. Seconde dimension béatitude évangélique. Nous allons tous les voir, parce que c'est ça la structure de l'éthique chrétienne. Et donc, si on veut comprendre philosophiquement la structure de l'éthique chrétienne, ce sont les béatitudes. Parce que tous les gestes du Christ, et surtout la croix, ne peut être regardé, contemplé, que dans la lumière des béatitudes. En dehors des béatitudes, c'est de la folie. Tandis que dans la lumière des béatitudes, j'allais dire, c'est normal. Quelqu'un qui veut et qui proclame les béatitudes évangéliques comme la structure même de la nouveauté religieuse qu'il préconise doit accepter, s'il est le fondateur d'une telle religion, de mourir sur la croix, pour qu'il n'y ait pas de mensonge. Les béatitudes commandent la croix. Il y a un lien. C'est du reste, je crois, pour cela que l'évangile de saint Jean ne parle pas des béatitudes, mais montre le mystère de la croix. Parce que le mystère de la croix montre d'une manière concrète l'exigence de toutes les béatitudes. Le mystère de la croix montre d'une manière concrète l'exigence de bienheureux les pauvres. Et le mystère de la croix ne peut être intelligible qu'à la lumière des béatitudes. D'une manière concrète, d'une manière pratique. Et ça, c'est important pour nous de saisir ça. Et si j'ose dire, je dirais les béatitudes, c'est la signature de celui qui est auteur d'une nouvelle éthique, d'une nouvelle philosophie morale, d'une nouvelle anthropologie. Il faut qu'il montre par sa mort de crucifié que tout cela est vécu par lui d'une manière imminente. Et Jésus à la croix est le pauvre par excellence. Toutes les pauvretés sont présentes. Et c'est une manière très belle de regarder le mystère de la croix. Toutes les pauvretés sont présentes. Et toutes les pauvretés sont assumées dans l'amour. Et les pauvretés deviennent des signes de l'amour du cœur de Jésus. Son amour va jusque-là. Voyez, je prends la pauvreté la plus terrible que Jésus vit à la croix. C'est la trahison de l'ami. Je crois que c'est la pauvreté la plus terrible. Les pauvretés matérielles, la perte de ses droits de citoyen juif, c'est pas drôle à 30 ans d'être mis sur le banc des criminels. Mais c'est peu de choses dans l'amour, l'amitié, il y a une unité qui se fait et qui est merveilleuse. Et je ne dis pas qu'on a un droit sur l'ami et que l'ami devient mon avoir. Non, on le respecte trop pour être mon avoir. On l'aime comme une personne. Et une personne ne peut pas être l'avoir de quelqu'un. Parce qu'on doit user de son ami avec tout le respect à l'égard de la personne. Mais il est sûr que l'amour d'amitié permet un épanouissement étonnant du cœur humain. Et la brisure de cet amour d'amitié se fait par la trahison. Trahir quelqu'un, c'est livrer les secrets qu'on a reçus de l'ami. C'est ça la trahison. Judas a trahi. Et la trahison de Judas, liée à la jalousie des grands prêtres, a pu faire œuvre commune et réaliser la mort de Jésus. Alors, on comprend comment Jésus, à la croix, est le pauvre par excellence. Il meurt à cause de la trahison de son ami. Et non seulement il pardonne, mais il meurt pour sauver son ami qui a trahi. Aimez vos ennemis. Et cela fait partie de la béatitude des pauvres. Un cœur pauvre peut pardonner. Mais il faut un cœur très pauvre pour arriver à pardonner à la trahison de l'ami. Il faut une pauvreté radicale dans l'ordre de l'amour d'amitié. Il faut être fidèle malgré la ruade de l'âne pour employer le symbolisme que Jésus lui-même emploie. La trahison, c'est la ruade de l'âne. On reçoit les coups de pied en pleine poitrine. Il faut être très pauvre dans son amour. C'est-à-dire, il faut accepter d'aimer dans une générosité totale, sans rien attendre de l'autre. Alors, on n'est pas déçu. Et on est capable de porter même quand il trahit, au-delà de sa trahison. Parce qu'on découvre, au moment de la trahison, qu'il demeure en lui quelque chose qui est inviolable. Sa personne humaine, qui ne s'identifie pas à sa trahison. Donc il est pardonnable. Jésus continue de l'aimer. Il continue de se servir même de sa faute vie pour aller plus loin dans l'amour. C'est montrer combien l'amour divin est plus fort que la mort et va plus loin. Surtout cet amour qui jaillit de source. Il a quelque chose qui dépasse toutes les morts, toutes les brisures. Il y a quelque chose en lui qui appelle, quelque chose qui est au-delà de ce que nous pouvons constater. Il y a là, je crois, pour nous, au plan philosophique, le point précis où l'on comprend comment la pauvreté du cœur du Christ va loin et combien son amour à l'égard du Père et à l'égard de nous va loin, puisqu'il se sert même de les conséquences de cette faute pour être victorieux dans l'ordre de l'unité et de la